Régis Autière, Vincent Lemaire, ou plutôt devrais-je dire Hardoc, bonjour. Donc vous êtes respectivement scénariste et illustrateur de la série à succès La guerre du Lulu. Alors deux actualités en ce qui vous concerne. C'est la sortie du tome 8 il y a quelques jours, sous-titré Luce. Alors je voudrais quand même revenir sur la jeunesse de cette série. Souvent on parle de la Seconde Guerre mondiale qui est souvent utilisée comme toile de fond tant en littérature qu'au cinéma, mais la Grande Guerre, celle de 14-18, finalement peu visitée. Quel a été l'élément déclencheur pour le scénariste?
Ça a été ma rencontre avec la région Picarde, en fait, enfin, avec le nord de la France de façon générale, et aussi la Belgique. Moi, je suis né en Bretagne, j'ai vécu tout le début de ma vie en Bretagne, et quand je suis venu, voilà, c'est ça. Et la Picardie, je l'ai découverte en venant à Bruxelles pour les états généraux de la philosophie. J'étais étudiant en philosophie à l'époque, et on avait affrété un bus avec voilà tous les étudiants de la fac de philo de Rennes, et on a traversé la Belgique, la Picardie. Et à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute, c'était la nationale, donc on avait le temps de bien regarder ce qui se passait autour de nous. Et on passe sur la nationale et déjà on commence à voir sur le bas-côté des cimetières militaires, donc des alignements de croix blanches et de façon assez régulière. On en voit un, on en voit deux. Puis voilà, les cimetières anglais, cimetières néo-zélandais, etc. Je me dis, oh là, on arrive dans une région qui est assez marquée. Et puis le paysage, en fait, était très différent de ce que je connaissais en Bretagne. On a un paysage de bocage quand on est dans les terres, avec beaucoup de bois, beaucoup de haies, de choses comme ça. Et là, on est sur des champs, voilà, des champs nus. Et à l'horizon, j'aperçois une espèce d'arc de triomphe gigantesque. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ce monument qui, de loin, on a l'impression que ça faisait deux ou trois fois la taille de l'arc de triomphe de Paris, quoi. Et en pleine campagne, quoi. Et c'est en revenant plusieurs années plus tard à vivre en Picardie que j'ai découvert que c'est le mémorial de Thiepval, donc un mémorial qui est consacré aux soldats du Commonwealth morts pendant la Première Guerre mondiale. Et surtout que j'ai vu qu'il y avait plein d'autres traces, plein d'autres cicatrices de la guerre de 14 sur le territoire picard, notamment des restes de tranchées, sur des trous de mines comme ça. On se balade en forêt dans la campagne et puis on voit un cratère comme ça énorme. Et ça, ça date de la guerre de 14. Et puis aux actualités régionales, régulièrement, on entend parler d'un obus qui a été retrouvé dans un champ et donc il faut évacuer le village d'à côté pour le faire sauter, enfin, ou déminer. Donc je me suis dit, mais la guerre de 14, en fait, qui dans ma tête était quelque chose de très lointain, qui appartenait à l'histoire, mais qui n'avait pas la présence de la guerre de 39-45. La guerre de 39-45, en Bretagne, on la connaît bien, parce qu'il y a des villes qui ont été détruites entièrement, et puis il y a des restes du mur de l'Atlantique. Mais la guerre de 14, quelque chose de tout très fait. Lointain. Quoi. Et là, je me suis rendu compte que la guerre était encore présente sur toute une partie du territoire français et sur la Belgique. Et j'ai commencé à m'y intéresser.
Et l'anecdote du Club des Cinq, dirais-je.
Ouais.
Comment vous avez pu le raccrocher par rapport à justement l'impact de ce que vous aviez...
Mais c'est parce que j'ai voulu mettre en scène des enfants, d'abord pour faire plaisir à mes propres enfants, qui avaient 10-12 ans et qui me demandaient de mettre en scène des enfants dans une bande dessinée. Et puis aussi, on m'avait fait la remarque qu'il n'y avait pas de bande dessinée qui était accessible au jeune public sur la guerre de 14. Il y avait... Alors, Jacques Tardy avait fait beaucoup de bandes dessinées sur la guerre de 14, déjà. Tout un travail mémoriel. Mais c'était des bandes dessinées qui étaient... destiné aux adultes ou aux grands adolescents et certainement pas à des enfants de 10-12 ans. Et moi, j'avais envie de rendre cette guerre accessible aux plus jeunes. Et le projet est parti de ça.
Alors, donc on dit tome 8. Le tome 7, on est déjà en novembre 1918, excusez-moi. Et là, la guerre est terminée. Le tome 8, on est en 1919. Vous aviez déjà la chronologie au moment où vous avez commencé? Parce que finalement, dans chacun des tomes, on a déjà un avant-goût du tome suivant avec les deux planches.
Ouais.
Donc, dès le départ, quand vous êtes arrivé chez Casterman, vous avez dit voilà.
Pas du tout. Pas du tout. En fait, l'éditeur donc, qui a suivi le projet au départ chez Casterman, qui s'appelle Didier Borg, on l'a rencontré au festival Quai des Bulles à Saint-Malo. Alors je le connaissais déjà parce qu'il avait publié Deux briquets de sang, donc une autre bande dessinée que j'ai fait chez Casterman, et on le croise près de la machine à café et il me demande si j'ai pas d'autres projets à lui présenter. Et je lui dis si, j'en ai un, mais il est pas pour toi. Et donc ça l'intrigue. Je lui fais le pitch et quand je disais ça, j'étais sincère, c'est-à-dire que Didier à l'époque dirigeait une collection qui s'appelait Caster, K-S-T-R, et qui c'était plutôt, alors déjà c'était des récits 100, 120, 140, 160 pages, et plutôt des récits contemporains. Nous, on était sur une aventure tout public, voilà, donc pour moi, c'était pas dans l'ADN de sa collection. Et il m'a dit, mais non, mais je m'occupe aussi maintenant de façon plus générale de toutes les collections de Casterman, enfin voilà. Et donc, on lui fait le pitch de la série, il me dit, mais c'est, non, mais ça m'intéresse, t'as des planches à me montrer. Je dis, bah, le dessinateur est juste là. Donc, Ardoc a sorti des planches, et tout de suite, il nous a dit, mais vous avez un super projet. Mais le projet qu'on lui présentait, c'était un projet dont l'histoire se déroulait sur 2 mois, à la fin de l'année 1914, entre la mi-août et puis la fin septembre, grosso modo.
Et déjà en 2009, il y avait eu Jeux de guerre, non ? Vous aviez.
On a fait une petite histoire. Alors, on avait déjà en tête l'histoire de la guerre des Lulus. Et on a fait un galop d'essai sur une histoire de 4 ou 5 planches pour un collectif sur la guerre de 14. Et donc, l'histoire qu'on propose à Didier et à Casterman, c'est une histoire qui fait une centaine de planches, grosso modo, et qui raconte donc le début de la guerre des Lulus. Et c'est lui qui nous dit, mais l'idée est géniale, plutôt que de faire une histoire qui se développe sur 1 ou 2 tomes, et sur seulement 1 ou 2 mois, faites-moi une histoire qui se développe sur toute la durée de la guerre, et puis on fait un tome par année de guerre. Et je l'ai pris au mot, donc j'ai retravaillé le synopsis, je lui ai renvoyé, et on est parti là-dessus. Et puis, au fil de l'écriture, en fait, il y a plein d'autres envies qui sont venues, parce qu'évidemment, quand on se lance dans un projet comme ça, on va beaucoup se documenter, et plus on se documente, plus on découvre des choses qu'on ne connaissait pas, et plus on a envie de raconter des choses. Donc c'est pour ça que la série a commencé à s'allonger. Il y a eu la perspective Luigi, notamment, qui est arrivée, qui se situe.
C'est les deux hors série.
C'est les deux hors série, en fait, mais qui, dans la chronologie, se situe
Vincent,
entre.
On
n'a
pas participé, là, les hors série.
Non, du tout. Non.
Dans la chronologie, ça se situe entre le tome 3 et le tome 4. Donc, c'est la suite immédiate du film qui sort bientôt. Et c'est la période où les Lulus sont en Allemagne. Et ça, c'est venu parce qu'à la fin du tome 3, je me suis rendu compte que l'histoire, en fait, était très ramassée, celle du tome 3. Elle se développait seulement sur 2 ou 3 semaines. Donc, on était toujours au début de l'année 1916 et on était censé retrouver les Lulus sur le tome suivant, en 1917. Donc, il y avait une grosse ellipse de temps. Et là, je me suis dit, il va falloir trouver un truc pour combler cette ellipse. Et ça a été l'idée de ce diptyque. Et donc, d'allonger même l'ellipse. C'est-à-dire qu'on retrouve les Lulus dans le tome 4. On est déjà au printemps-été, enfin, l'été 1917. Donc, il y a une ellipse d'un an entre le tome 3 et le tome 4. Et voilà, et la perspective Luigi vient combler ça. Et après, plus on avançait vers la fin de la série, plus on se disait, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas racontées, il y a plein de choses qu'on a encore envie de dire. Et donc, Casterman nous incitait à continuer. Et donc, on est parti sur cette idée de, puisque les Lulus sont tous séparés les uns des autres à la fin du tome 5, de raconter comment ils réussissent à se retrouver et de faire un deuxième cycle qui se développe entre le 11 novembre 1918, donc l'armistice, et puis le 28 juin 1919, la signature du traité de Versailles.
Et donc, on aura Lucas en 23 et Ludwig en 24. C'est ça ?
En 2024.
Ouais.
C'est ça, en fait. Ludwig, qui est le narrateur des 5 premiers tomes, et donc sur le tout dernier tome de la série, donc ce tome Ludwig, là, on va retrouver le mode de narration des 5 premiers tomes, c'est-à-dire celui d'un vieillard qui nous raconte sa jeunesse, avec tout le côté nostalgique que ça implique. Et c'est ce qui nous permettra de boucler la série, en fait. On arrivera vraiment à la fin officielle de la guerre, donc la signature du traité de paix. Voilà, et on aura terminé, enfin, voilà,
Vincent, vos planches pour les tomes 9 et 10 sont déjà dans un coffre chez Casterman ?
Pour les tomes 9 et 10 ?
Ouais.
Donc des prochains à venir, c'est ça ? Ben, j'aimerais bien. Non, mais alors on travaille actuellement sur le tome 9, on démarre là depuis peu et on espère le terminer avant cet été, en tout cas la partie dessin. On a beaucoup de travail parce qu'on fait aussi beaucoup de promotion du dernier tome plus les avant-premières du film, mais voilà, on part sur le tome Lucas. Donc moi je prends toujours autant de plaisir à dessiner les Lulus. Donc alors ce qui est parfois le plus long, c'est selon les espérances de Régis dans ses histoires placées dans tel endroit, parce qu'on s'inspire quand même de vieux existants la plupart du temps, et on s'appuie, enfin Régis et moi-même on s'appuie quand même sur des documents historiques quand même, pour pas être non plus à côté non plus de la grande histoire avec un grand H, même si on n'est pas des historiens. Mais moi je découvre en tout cas à chaque fois de planche par planche, puisque Régis ne crée pas l'histoire entièrement. Donc ce qui fait mais je préfère, parce qu'en fait moi je découvre en même temps comme un lecteur, en fait, mais comme j'ai pas les images, mais je suis le premier lecteur de la bande dessinée à travers les dialogues et à travers les ambiances et les lieux existants qu'il propose de les dessiner. Donc je prends du plaisir justement, je découvre comme si je détournais des pages de BD, sauf que ce sont pas une bande dessinée forcément, mais et je préfère ça plutôt que d'avoir toute une histoire où en fait je me dirais mince, ça y est, je connais tout et là ça va être un an de travail et je vais avoir trop de doutes, je vais revenir en arrière. Là ça implique effectivement que j'aille assez vite. à mon rythme, hein, forcément, mais parce que je passe aussi beaucoup de temps malgré tout à chercher des petites images à droite à gauche, pour trouver des petits trucs qui soient un peu plus pétillants pour mettre dans la bande dessinée, forcément, parce que représenter la vie des civils, c'est pas simple, puisqu'on trouve beaucoup plus d'images effectivement des tranchées. Que sur le quotidien des civils. Donc, mais c'est ça qui est bien aussi. Et donc, je découvre en même temps ce que les propositions de Régis, et après, je découvre aussi des images qui vont me permettre d'agrémenter en fait les planches.
Est-ce qu'il y a des couleurs spécifiques à cette époque 14-18?
Je sais pas, comme beaucoup d'enfants étant petits, je pensais que le monde était en noir et blanc. Mais je sais que sur les premiers tomes, comme l'histoire devenait de plus en plus grave, j'avais tendance à assombrir, et c'était aussi un choix, hein, c'était un parti pris à assombrir. Même les personnages vieillissent et elles sont plus creux, plus creusées, ils sont plus marqués. J'ai beaucoup joué avec les contrastes et les lumières, et sur les derniers tomes, comme c'est un peu plus léger, justement, j'allège un peu plus avec le nouveau coloriste qui est David Perimoni, le précédent étant David François, qui est aussi dessinateur de bande dessinée. Sur l'année 1919, effectivement, j'ai allégé les couleurs, j'ai rendu ça un peu plus printanier, même si les saisons changent aussi. Mais oui, après, il y a aussi des teintes que j'ai utilisées, les ocres, des choses comme ça, en fait, qui sont la vision que je peux avoir, comme beaucoup de personnes, je pense aussi. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir vu des vieilles photos qui étaient en sépia. Et les verts aussi, il y a beaucoup de verts parce qu'on est beaucoup dans la nature, et je voulais des couleurs assez réalistes, sans être réaliste au sens à 100%, parce qu'on n'est pas dans une bande dessinée réaliste, mais oui, et puis ce sont aussi des teintes qui m'ont marqué personnellement, et j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi aussi avec des parents collectionneurs qui avaient des choses du passé, des vieilles cartes postales, des photos, des objets du quotidien la moitié du 20e siècle ou même d'avant, et j'ai moi-même aussi un oncle qui, étant petit, depuis que je suis tout petit, qui tient un musée de guerre. En venant de la guerre d'Algérie, il a consacré un corps de ferme à un musée de guerre privé sur la guerre de 14-18 spécifiquement. Ah oui. Donc j'ai grandi avec ça, et donc toutes ces teintes et tout cet univers-là, en fait, était déjà en moi. Et je pensais que tous les enfants, comme j'ai dit souvent en interview, c'est que tous les enfants en France avaient un tonton qui avait un musée de guerre. C'est bien plus tard que j'ai appris que non. Voilà, donc je pense que tout ça, de toute façon inconsciente, a aussi contribué à que je réalise cette bande dessinée de cette façon-là.
Alors, Damien Cuvelier a été storyboarder pour le 3 et le 4. Naïvement, expliquez-nous un petit peu, entre, je croyais qu'un illustrateur pouvait être lui-même un storyboarder. Vous êtes aussi storyboarder, non ?
Oui, bien sûr, sur tous les autres tomes, mais même les récents, c'est moi qui l'ai fait, parce que c'est là où tout le travail essentiel de la bande dessinée, c'est le storyboard. L'écriture, le scénario, le dialogue et le storyboard. C'est juste que pour des raisons très personnelles dans ma vie privée, forcément, parce que c'est personnel, je ne pouvais plus assumer ce travail-là pour des raisons de temps, des raisons qui faisaient que je ne conçois pas en fait faire une bande dessinée en simple technicien en recopiant des storyboards de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que parce qu'on n'est que dans la technique, on est juste là pour faire un dessin, recopier, ancrer. Et le plaisir de la bande dessinée, c'est aussi en tant que dessinateur faire de la mise en scène, choisir ses cadrages, choisir ses formes de composition, ses diagonales, enfin le placement des bulles. Et donc c'est parce que effectivement à un moment donné, pour des raisons d'avancement sur l'album, j'avais besoin d'un soutien d'un storyboarder, mais qui était Damien, qui est un ami aussi de longue date et qui a un travail assez proche du mien, en étant tout en temps différent.
Alors l'autre, l'actualité justement, on en parlait tout à l'heure, c'est l'adaptation cinématographique par Yann Samuel de votre série, donc ça sera La Guerre des Lus qui sort le 18 janvier. Alors expliquez-nous un petit peu votre rencontre avec Yann et comment vous a-t-il séduit par son projet d'adaptation, en sachant qu'il a utilisé les trois premiers tomes et une partie du sixième.
Je pense que déjà ça serait plutôt à Régis, parce que c'est Régis qui a eu la première approche avec le producteur et Yann. Donc tout a commencé par l'approche avec Régis au départ.
Ouais, ce sont des producteurs qui d'abord ont acheté les droits, tout simplement parce que donc c'est la société de production des Lézards, et ce sont deux producteurs qui sont nés dans l'Aisne, donc la région où se déroule le début de la guerre des Lulus, et ils l'ont découvert parce qu'ils s'intéressaient à la bande dessinée de Briquet de Sang, donc une autre bande dessinée que j'ai faite avec au dessin le coloriste de la guerre des Lulus. Et quand ils se sont intéressés à cette bande dessinée, Sophie Lévy chez Casterman, qui s'occupe de la cession des droits, leur a dit, mais il y a une autre bande dessinée qui peut vous intéresser, qui se passe aussi dans la région, c'est La Guerre des Lulus. Donc ils ont pris la bande dessinée, ils l'ont lue, et tout de suite ils ont acheté les droits en disant, oui, il y a moyen d'en faire quelque chose. Au départ, ils ne savaient pas trop quoi en faire. Ils ne savaient pas si ce serait une série ou un film, voire de l'animation. Et puis comme leur ADN c'est plutôt le cinéma, ils sont plutôt des producteurs de cinéma à la base, ils se sont dit, voilà, on va monter un film de cinéma, mais il nous faut un réalisateur pour ça. Donc ils ont commencé par démarcher un ou deux réalisateurs. Et il y avait Yann Samuel que Eric Bocchio, donc l'un des producteurs, connaissait, mais il savait aussi que Yann...
Il était dessinateur quand même, et storyboarder, non ?
Yann. Yann vient du milieu, voilà, du graphisme. Et Eric, en fait, ne l'avait pas démarché tout simplement parce que Yann, plusieurs années auparavant, lui avait dit « Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais raconter avec des enfants. J'ai fait La Guerre des Boutons, j'ai fait d'autres films. Donc voilà, je ne veux plus faire de films avec des enfants. » Et donc, il n'était pas allé le voir. Et il croise l'agent d'Yann qui lui dit « Ah, mais ce projet-là, présente-le quand même à Yann. » Eric lui dit « Oui, mais Yann m'a dit qu'il ne voulait plus faire de films avec des enfants. » On présente-le lui quand même. Et donc, Eric déjeune avec Yann, il lui présente le projet. Yann lui confirme que non, bon, les trucs avec les enfants, il a déjà fait le tour, mais il accepte de lire quand même la bande dessinée, voilà, pour lui faire plaisir. Et il lit la bande dessinée, trois jours après, il rappelle les producteurs pour dire « Vous m'avez eu, c'est génial, il y a plein de choses que je n'ai pas abordées dans les films que j'ai fait avec les enfants. Je vois ce que je peux en faire. » Et donc Yann, voilà, a commencé à travailler sur une première écriture, un premier synopsis pour me faire une proposition. Et le film, voilà, a vraiment été lancé à partir de ce moment-là.
Votre droit de regard, parce qu'indépendamment de la cession des droits,
on n'a pas demandé de droit de regard. Enfin, ce qu'on a demandé, c'est à ce que l'esprit de la série soit respecté, à ce que les personnages soient respectés, la trame générale, même s'il avait toute latitude pour ajouter des séquences, en supprimer, ajouter des personnages, etc. Mais voilà, mais que l'intrigue générale ne contredise pas ce qu'on racontait dans la bande dessinée. Et puis surtout, on voulait qu'il respecte les valeurs de la bande dessinée. Voilà, les valeurs d'entraide, de fraternité, l'histoire de vraiment de résilience des enfants, etc. Et comme Yann était sur la même longueur d'onde et que c'était justement ce qu'il lui avait plu dans la bande dessinée, à partir de là, on savait qu'il n'y avait aucun souci, on lui a fait entièrement confiance. Et tout en sachant qu'une adaptation, c'est forcément une interprétation, ça part d'un point de vue, c'est la sensibilité du réalisateur qui est aussi le scénariste du film qui parle. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que s'il avait juste fait un copier-coller de la bande dessinée, ben à l'arrière, j'aurais pu le faire moi-même. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, c'est sa vision à lui. Et donc, et je sais, pour l'avoir fait, moi, sur des adaptations de nouvelles ou de romans, quand on fait une adaptation, voilà, on part de ce qu'on a aimé dans ce qu'on a lu, en mettant de côté tout le reste, et on développe, en fait, tout ce qu'on a aimé pour en faire une œuvre qui est un peu différente de l'œuvre de départ, mais qui la respecte. Et c'est ce que Yann a fait, et il l'a très bien fait. Le film est à la fois différent de la bande dessinée par certains côtés, donc il y a des nouveaux personnages, il y a des nouvelles séquences, il y a des choses qui sont dans la bande dessinée qui ne sont pas dans le film. Le registre est un peu différent. Dans le film, on est vraiment sur le registre du conte, avec une vision de la guerre qui est légèrement fantasmée. C'est-à-dire que dans la présentation de la guerre telle qu'elle est dans le film, on a un peu un amoncellement de toute l'imagerie qu'on a sur la guerre de 14. Même si chronologiquement, voilà, il y a des petits trucs qui sont pas tout à fait justes, mais ça fonctionne parce que on n'est pas dans une vision historico-historique de la guerre, mais dans une vision de conte où la guerre, c'est une espèce d'ogre, en fait, qui dévore tout sur son passage et qui poursuit les enfants, donc les Lulus, tout au long du film. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien et c'est la grande réussite du film.
Dernière question. Vous avez été sur le tournage. Quelle a été votre réaction et je suis plein d'émotions quand même de visualiser finalement votre travail, non ?
On a surtout été comme des grands gosses, quoi. C'est-à-dire qu'on était des gamins dans un parc d'attractions. On s'est retrouvés dans le village des Lulus, un village qu'on avait créé toute pièce pour la bande dessinée, et on se retrouve d'un coup au milieu de ce village. On se retrouve sur un champ de bataille à marcher dans les tranchées. Moi, je suis allé avec mon appareil photo, j'ai pris à peu près 6000 photos sur les 7 ou 8 jours de tournage auxquels on a participé. Et surtout, en fait, j'ai absolument tenu. Parce qu'au départ, on s'est dit, bon, on passera une fois sur le tournage. Et Yann nous a dit, bon, j'espère que vous passerez un peu plus. Bon, c'est, ouais, on a autre chose à faire quand même. Et on y va une fois. Et puis après, on n'a plus envie, c'était de revenir quasiment tous les jours. Donc on n'y est pas allé tous les jours, mais on a essayé d'aller sur tous les décors du film. Parce que, bon, comme c'est du décor réel, c'est ça qui a l'impression, il n'y a pas de tournage sur fond vert. Donc ça valait vraiment la peine d'aller voir parce qu'on voit des choses qui n'existent que dans l'imagination du réalisateur et dans la nôtre et qui d'un coup deviennent réalité.
Vincent,
Oui, bah, ça rejoint le propos de Régis, mais en plus de ça, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que
vos dessins sortaient.
Le créateur de Spirou, le nom m'échappe, le premier, pourtant je le connais, mais le tout premier créateur, c'est J. J'ai un doute sur. Ouais. Quand il dessine Spirou sur une toile et que Spirou sort de la toile, j'ai l'impression un peu, cette sensation-là aussi, c'est-à-dire que tout surgit de l'esprit aussi de la personne qui a fait les décors, de Yann, de Régis, de nous tous, en fait, même si initialement c'est notre histoire, notre personnage. Et puis surtout, il y a un truc qui fait que, comme dit Régis, on y est retourné plusieurs fois, c'est aussi qu'on a aussi créé des liens avec les acteurs, les jeunes acteurs, et puis le réalisateur et les producteurs, en fait, à un tel point où maintenant on dit que on est une famille, quoi, donc la famille des Lulu. Pour les orphelins, au départ, on a réussi à créer une famille en dehors de l'histoire.
Génial.
Donc c'était vraiment un très très bon moment et j'espère qu'on pourra le réitérer si jamais il y a un deuxième film.
Régis Vincent, merci beaucoup. On rappelle donc le tome 8 de La Guerre des Lulus vient de sortir. Et il y a également, il faut noter qu'en janvier 2023, il y aura des romans qui sont adaptés des albums à apparaître. Et alors surtout donc l'adaptation cinématographique de Yann Samuel le 18 janvier. Merci beaucoup.
Merci à vous.